Nuit spéciale Léo Mallet, deuxième nuit spéciale Léo Mallet. Bonsoir Patrick Pécherot.
Bonsoir Philippe Garby.
Alors vous avez entendu, je suis sûr, Léo Mallet à l'instant dans son 13e arrondissement qu'il partage avec Alain de Mouzon, alors qui lui venait de publier Château des Rentiers, et lequel Alain de Mouzon, vous avez entendu, avait constaté lors de séances de signature dans les librairies du quartier, dans le 13e arrondissement bien entendu, que les gens n'en avaient rien à foutre du présent, ils préféraient qu'on leur raconte des choses qui se passent dans le lointainement, comme ça, dans leur histoire. Voilà. Alors, j'ai en main folio policier assez épais, près de 700 pages, qui regroupe, Patrick Pécherot, les romans de votre trilogie parisienne, intitulée « La saga des brouillards ». Les titres des romans, c'est donc « Les brouillards de la butte », Belleville-Barcelone et puis Boulevard des Branques. Alors est-ce que c'est parce que les gens n'en ont rien à foutre du présent, comme disait de Mouzon devant Léo Mallet, et qu'ils préfèrent qu'on leur raconte des histoires qui se déroulent dans le passé, que vous avez décidé un beau jour, Patrick Pécherot, de rendre hommage, en tout cas oui, à Léo Mallet et puis à Nestor, Nestor alors qui n'est pas Burma, qui est Nestor, c'est pour ça, c'est pour rendre hommage et parce que finalement situer des aventures dans le passé c'est mieux que dans le présent.
À la première question, oui, c'est effectivement pour rendre hommage à Léo Mallet et à Nestor Burma que j'ai découvert début des années 80, lorsque des gens comme Jean-François Villard, Phil Cazoar, Bayon et Jean-Patrick Manchette ont publié des articles sur le personnage et son œuvre. Donc coup de cœur immédiat et puis longue déambulation dans Paris avec mes aventures, enfin les siennes, celles de Léo Mallet, les aventures de Nestor Burma dans la poche et un héros qui ne m'a jamais quitté. Donc hommage, oui, clairement et revendiqué.
On reviendra en fait, oui. Patrick Pécherot, finalement, le fait que vous ayez situé ces aventures, ces romans-là, parce que vous êtes romancier également sur des histoires qui se passent de nos jours, très beaucoup plus contemporaines, on reviendra tout à l'heure. Mais vous avez dit que donc, vous aviez commencé par les Léo Mallet grâce aux articles de redécouverte de gens qui ne sont pas tellement dans la mouvance, dans le style, c'est autre chose, mais en tout cas dans l'idéologie de Léo Mallet. C'était quoi les premiers romans que vous avez découvert?
Le premier, c'était Le soleil naît derrière le Louvre.
Voilà, c'est le premier de la série. Des 20 arrondissements.
J'ai commencé par celui-là, c'est le premier que j'ai trouvé, c'était en livre de poche à l'époque. Et j'avais été vraiment ébloui, déjà la beauté du titre, j'ai trouvé le titre tellement beau que j'ai mis quand même un certain temps à comprendre qu'il y avait quand même un jeu de mots entre le soleil, le Louvre et le roi soleil. Et moi, je voyais comme ça une espèce d'image un peu surréaliste, ouais, le soleil qui naît derrière le Louvre. Et ce héros m'a tout de suite intéressé, en dehors des clous, un peu libertaire, qui fait ce qu'il a envie de faire. Et puis ces déambulations, surtout dans Paris.
Burma, c'est un grand déambulant. Ouais. Ouais. Ça se passe où, au tout début, le soleil naît derrière le Louvre?
Le tout début. Là, vous me posez une colle.
Oui, je crois qu'il arrive dans une rue à côté des Halles, enfin des Halles de Baltard, donc il interroge une prostituée, et il cherche un homme de province qui vient tous les ans à peu près au même endroit, voir les mêmes prostituées. Mais enfin, cette année-là, ça se passera un peu différemment. Et puis il y a un crime, évidemment, dans les Halles. Enfin, il déambule en effet. Et puis il fait du documentaire. Il nous fait du documentaire.
Oui, alors ça renvoie à votre à la première partie ou deuxième partie de votre question précédente, c'est-à-dire les histoires qui se situent dans le passé. Mais il se trouve que Mallet, lui, il écrivait au présent, il écrivait pas au passé. Donc voilà, pour lui, c'était des histoires contemporaines de son temps. Donc évidemment, quand on rend hommage à quelqu'un qui écrivait sur son temps, on écrit sur son temps, on n'écrit pas au présent. Alors après, le débat histoire présent passé, ça je laisse la responsabilité à de Mouzon. Château des Rentiers, qui est un très beau livre, maintenant appartient au passé, donc je lui souhaite tout le succès du monde.
Alors après le premier, donc Le soleil naît derrière le Louvre, qui est le premier arrondissement à Paris, et donc le premier roman de cette série des nouveaux mystères de Paris. Vous vous souvenez, Patrick Pécherot, de la suite? Vous avez dévoré tout ce que vous trouviez?
Dans l'ordre chronologique de ma dévorance, si on peut dire, non, je me souviens plus lesquels sont venus derrière, mais enfin ils y sont tous passés. Et effectivement, Un brouillard au pont de Tolbiac est sans doute un des plus beaux. Ouais, vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux. Et puis, il y a eu aussi les Léo Malais. Il y en a quelques-uns qui ne se passent pas à Paris. Je me souviens particulièrement aussi des Rats de Montsouris, à cause d'une description très surréaliste d'un visage de femme couvert de coquillages dans les bassins. Voilà, un mannequin, tout à fait. Oui. Alors ça renvoie directement à l'activité surréaliste de Malais, à la fois la référence au mannequin et puis aussi à l'écriture telle qu'il a pu la pratiquer sous d'autres cieux que celle du polar.
Par exemple,
les poèmes, oui. Les poèmes surréalistes de Léo Malais qui sont magnifiques. Et que j'espère on va rééditer.
Alors, on sait qu'il y a eu 15 arrondissements traités par Léo Malais. Ça serait lequel, Patrick Pechereau, votre préféré? Ou est-ce que vous pensez que finalement tous se suivent et c'est par la pratique régulière et puis à laquelle on revient, parce qu'on peut les relire, qu'on entre dans un monde qui est clos, certes, c'est l'arrondissement qui est clos, crime à ciel ouvert, mais en lieu clos. Il faut tout lire?
Bien sûr, il faut tout lire. J'ai personnellement une petite préférence pour les arrondissements les plus populaires. Voilà. Je mettrais dans mon hit parade, en queue de peloton, les balades de Léo Malais dans les beaux quartiers, comme Pas de bavard à la muette ou
dans le 16e.
Voilà, dans le 16e, oui. Oui,
oui. Oui, mais en fait, dans chaque arrondissement, que ce soit un quartier non populaire où il y a toujours de l'abomination, du crime, les bas-fonds quand même.
Bien sûr. C'est aussi un des éléments du charme, c'est de renouer un peu avec cette tradition du roman feuilleton. On peut considérer que le cycle Burma est un immense roman feuilleton aussi poétique que le cycle Fantômas. Hein. Malais n'était pas du tout indifférent à Fantômas, comme tout bon surréaliste.
Alors vous, Patrick Pechereau, donc vous ne vous êtes pas contenté d'aimer la lecture des histoires de Nestor Burma signé Léo Malais. Vous êtes on va pas employer le mot approprié parce que oulala, c'est dangereux peut-être. Mais en tout cas, vous avez emprunté un héros de papier qui lui n'est pas dans le domaine public. C'est toujours protégé. Donc voilà, on peut peut-être qu'un auteur peut prendre justement de Rocambole ou un mousquetaire,
Sherlock Holmes,
ça va bon. Mais Nestor Burma, il appartient encore à la famille, au fils de Léo Malais. Alors comment vous avez fait pour vous êtes dit un jour, j'aime tellement ce Nestor Burma que je vais lui donner vie en dehors de ses aventures, mais en même temps d'une manière très, très honnête, c'est-à-dire que avec la vraie vie de Léo Malais, avec ce qu'on sait un petit peu quand même du passé de Nestor Burma.
Oui, j'étais tellement, et je le suis toujours, tellement amoureux de ce personnage que j'ai eu envie d'enfiler un peu son impère avec beaucoup de respect, puisqu'effectivement, c'était le premier roman de la trilogie est un roman clairement revendiqué comme un hommage à Malais. Hein, il y a une postface qui l'explique.
Les brouillards de la butte.
Les brouillards de la butte. Et j'ai eu envie de reprendre un projet que Léo Malais avait et n'avait pas pu faire aboutir, qui était de donner une jeunesse à son personnage. Donc il avait situé l'année en 1926, donc j'ai repris l'année 1926, et j'ai mêlé effectivement à la vie de mon Nestor, qui est, comme le poème de Verlaine, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, des éléments de la vie de Léo Malais, et certains éléments de la vie de Léo Malais que j'ai recréés, comme la rencontre avec Breton. La vraie était romanesque, j'aurais pu la mettre dedans, mais j'ai préféré en inventer une autre. Et voilà, je me suis petit à petit, non pas approprié, parce que le personnage de Nestor Burma n'appartient qu'à son créateur, mais je me suis, imprégné, je l'étais déjà par mes lectures, donc je me suis imprégné en écrivant de cet esprit un peu fantomatique de Nestor, qui est comme ça, qui m'a visité, on peut dire, enfin qui m'a jamais quitté, il me colle à la peau, ce Nestor, et voilà, donc après on a du mal à s'en défaire, d'où la trilogie, parce que j'ai pas réussi à quitter ni Nestor ni l'époque de l'entre-deux-guerres, j'avoue, qui est une époque qui pour d'autres raisons m'intéresse. Mais et lui, puis ça m'a valu de faire la connaissance de Jacques Malais, le fils de Léo. Voilà,
plus tardivement, hein, il avait, la trilogie était parue en somme.
La trilogie était parue, ouais. Nous sommes rencontrés l'an passé.
Et que disait-on alors dans la famille Léo Malais, c'est un hommage certes au personnage, mais ils appréciaient, c'était...
Là, c'est... Bon, j'ai eu l'indélicatesse de ne pas envoyer ce que j'ai commis à Jacques Mallet. Donc je pense qu'il m'en a voulu un peu et il avait toutes les raisons de m'en vouloir. Mais enfin, j'étais un peu à l'époque le jeune chien fou amoureux de Léo. Et puis Jacques Mallet est quelqu'un d'adorable. Voilà, donc tout ça c'est réchauffé autour de quelques vers. J'ai reçu récemment une carte de lui qui représente un collage de son père. Et puis voilà, non, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Il a eu le très beau geste de donner tous les objets de valeur artistique de Léo Mallet à la médiathèque de Montpellier. Hein, le bureau fait par Dali, les masques de Breton. Enfin, il y a tout un trésor à la médiathèque qui serait aujourd'hui sans doute invisible si Jacques Mallet n'avait pas donné tous ces objets.
Alors il faut dire, Patrick Péchereau, sinon vous ne seriez pas dans cette nuit spéciale, deuxième nuit spéciale consacrée à Léo Mallet, que vous n'avez en rien trahi ni le monde, ni le personnage, ni le style, bien entendu, de Léo Mallet.
C'est une déclaration d'amour, hein, donc voilà, oui, parfois ça, la vous déclaration n'allez... d'amour, on ne maîtrise pas, ça part oui. comme ça.
Hein. Non mais ça pourrait être déclaration d'amour un peu plate et qui finalement n'apporte rien au personnage, sauf que ce sont trois bons romans qui composent cette trilogie, ce qui est quand même l'intérêt de... Et le premier intérêt des lecteurs. Parce que si c'était une déclaration d'amour ratée, finalement, ça serait très ennuyeux. Non, je disais, je revenais sur cette histoire de personnages qui existent, que l'on emprunte, parce que finalement, Nestor Burma, lui, il est toujours un petit peu entre la légalité et l'illégalité quand même. Il crochette les serrures, il montre une carte tricolore qui, en fait, c'est l'association des amateurs de je ne sais quoi, de la philatélie, enfin pour faire croire qu'il est policier quand il parle à des gardiennes d'immeubles, concierges à l'époque, qui ne voient pas bien, il peut se faire passer pour un flic. Donc vous, c'est pas ça, vous n'êtes pas un délinquant, vous n'avez pas envahi le monde de Léo Mallet pour vous le prendre.
Ah, pas du tout, d'ailleurs, mon projet, une fois que la trilogie a été dans la tête, c'était de faire une trilogie et de m'en tenir là. Non, les écrivains sont toujours un peu des voleurs ou des éponges. Moi, j'ai épongé de façon fantasmée, j'ai dû éponger le vin que boit de temps en temps Nestor Burma avec son ami journaliste.
Marc Covette, mais enfin...
Voilà, et il m'en est resté quelque chose, mais quand on est à ce point amoureux d'un personnage, on le quitte jamais, même quand on n'écrit plus ou quand on n'écrit pas sur lui. Voilà, j'ai rencontré récemment, j'ai revu récemment quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Didier Blonde. Il est complètement fasciné par Arsène Lupin. Arsène Lupin le quittera jamais. Voilà, moi c'est Burma.
Alors, en fait, vous avez même Patrick Péchereau. Créer un personnage dans ces trois romans, parce que finalement c'est pas Nestor Burma, c'est pas Léo Mallet, mais c'est un croisement de ces deux personnes, en tout cas d'un personnage et d'une personne.
Oui, c'est l'aventure qui arrive souvent au personnage, c'est-à-dire que il vous échappe, surtout quand au début on en fait quelque chose un peu hybride ou un peu presque la créature de Frankenstein. On construit son personnage en s'inspirant effectivement de celui qui vous a poussé à faire ce jeu ou ce pari littéraire. Et puis après, le personnage il vit sa vie. C'est ce qui est arrivé aussi dans le roman avec un second couteau qui s'appelle André Breton et qui ne devait faire que passer dans le roman, mais il est resté.
C'est un personnage important d'ailleurs, et il dit à Ness à un moment donné: vous êtes le plus surréaliste d'entre nous.
Oui, un peu de ça, du moins dans le comportement de Nestor à l'intérieur du roman, c'est sûr.
Et il se promène au but de Chaumont, il a voilà, donc vous faites alors Ness, Breton devient un personnage de roman, Ness redevient des personnages de roman. Qu'est-ce qui se passe dans ces trois histoires? Alors, ça se passe en 1926. La période est donc quand même différente des aventures, évidemment, des premières aventures de Nestor, puisque c'est dans le Stalag, c'est pendant la guerre. Et puis, ça revient en France, à Lyon, Paris. C'est le monde de l'époque, enfin, c'est ce qui se passait, c'est les périodes fasciste en Italie, pré-hitlérienne.
Voilà, l'année 26 au départ, donc c'est celle qu'avait choisi Mallet. Donc j'ai pris celle-là, j'aurais pu en prendre une autre, parce qu'en 26, il ne s'est pas passé énormément de choses sur Paris. Donc j'ai pris un personnage qui n'était pas encore détective privé, puisqu'il est très jeune, il arrive à Paris, à peu près à l'âge où Léo Mallet est monté de Montpellier à Paris. Donc en l'occurrence, dans le roman, il bouffe de la vache enragée, et puis il fréquente les derniers illégalistes, hein, qui étaient des anarchistes, qui étaient partisans de ce qu'on appelait la reprise individuelle, c'est-à-dire en gros du vol pour vivre. Donc là, il est mêlé à une histoire qui va l'emmener sur les suites de la guerre de 14, hein, en 1926, la guerre de 14 encore très présente dans la société française, évidemment. Les anciens combattants sont encore très jeunes, et puis on découvre quelques scandales militaro-financiers post-guerre de 14. Et puis dans le second roman, là, qui se passe en 38, voilà, Belleville-Barcelone, ce Nestor, là n'est plus un petit bandit anarchiste, il est passé un peu de l'autre côté, mais il a un pied, disons, aussi toujours en dehors des clous, et il est privé, détective privé. Et
donc, mais là, pas à son compte.
Non, pas à son compte. Il travaille pour une agence, elle s'appelle l'agence Bowman, et il est mêlé à une histoire où va intervenir la cagoule et les républicains espagnols et ceux qui les soutiennent en France, dans le périmètre très fermé, là aussi, de Paris. Et dans le troisième, c'est l'arrivée et l'entrée des troupes allemandes à Paris. Et là, mon Nestor se voit mêlé au milieu de la collaboration, avant même que la collaboration officielle ne débute. Il y a toujours des gens qui devancent l'appel, voilà. Donc là, il y en a qui ont devancé l'appel de la collaboration. Et ce dernier roman traite aussi entre les lignes du Boulevard des Branques, traite aussi entre les lignes du sort qui a été réservé aux malades mentaux pendant la guerre.
Avec évidemment le lot de médecins qui ne demandent qu'à suivre les belles idées hitlériennes et puis françaises, parce qu'il y a ce professeur
Carrel,
il est réel, qui d'ailleurs il y a son nom donné encore dans énormément de villes comme ça et des rues. Carrel.
Oui, Carrel était partisan de l'eugénisme, voilà. et de l'élimination d'un certain nombre de gens, dont les malades mentaux. Mais ceux qui sont morts en France sont contrairement à l'Allemagne où certains ont été exterminés, ceux qui sont morts en France n'ont pas été exterminés, ils sont morts de mauvais traitements, enfin de sous-alimentation, puisque le ravitaillement avait autre chose à faire qu'à alimenter les hôpitaux psychiatriques. Voilà, hein, c'était pas des priorités. Alors, beaucoup sont morts de faim.
Ça, c'est vraiment le cercle de l'enfer.
Vos
descriptions des hôpitaux psychiatriques, que ce soit à Paris ou en province, vers Orléans, c'est ça, c'est terrible. Vous êtes quoi? Alors là, vous avez fait, Patrick Pechereau, un travail de documentaliste. Vous êtes vraiment appuyé sur des recherches.
Oui, enfin bon, des recherches minimum. Il y a des écrits qui sont parus là-dessus, évidemment. Il y a aussi des gens qui aujourd'hui sont très connus, qui sont morts à ce moment-là. Hein. Je pense notamment à Séraphine, hein, la peintre qu'on a redécouverte, qui est morte en hôpital psychiatrique, voilà, à cette époque-là. Donc tout ça fait qu'il y a maintenant de la documentation sur le sort de ces malades mentaux. Je dirais donc on la trouve très très facilement.
Camille Claudel aussi.
Camille Claudel, bien sûr, effectivement. Oui. On trouve ça très facilement. Et après, il suffit, je dirais, de s'immerger un peu dans ce qu'on pense être l'horreur de cette situation, c'est-à-dire des gens qui sont totalement désorientés, des fous, comme on disait, qui n'ont plus grand-chose à manger, qu'on transporte d'un hôpital à l'autre, parfois pour les faire échapper à des bombardements quand les troupes allemandes arrivent. Hein. Il y a eu un livre qui s'appelait Le train des fous, où on racontait comme ça l'évacuation de Clermont-de-l'Oise. Donc il suffit d'imaginer un train entier rempli de malades mentaux sous les bombes. Et voilà, on a une vision quand même de... presque dantesque, hein, ou bochienne, si on peut dire, puisque Jérôme Bosch est à la mode, là, à la fois de l'univers asilaire et puis de l'univers asilaire pendant justement la guerre et la débâcle.
Alors votre Nestor, Patrick Pechereau, il est donc très fidèle, il est très proche du Nestor Burma de Léo Mallet, mais... idéologiquement, quand même, il n'est pas exactement tel qu'on connaît le Nestor Burma des années 50 et presque surtout des années 60. C'est-à-dire qu'il est plus à gauche, pour résumer, non ?
Mais là, je sais pas. J'ai pas eu cette impression. Je sais pas s'il est à gauche, pas à gauche. Disons qu'il a un petit fond Anar qu'avait, je crois, aussi le vrai Burma. Et...
Mais Anar de droite, Anar de gauche aussi. Léo Mallet est plus Anar de droite que.
Alors, je sais pas ce que c'est qu'un Anar de droite. C'est une expression effectivement très très pratique pour ranger des gens qui sont inclassables. Alors, Léo Mallet a fait partie du mouvement anarchiste. Alors après, on l'a catalogué d'anar de droite, effectivement. Donc mon héros est peut-être, je dirais, plus anar de gauche que ne l'était Léo Mallet. Mais je dirais, peu importe. Oui, mon héros, il va fréquenter les républicains espagnols. Il va fréquenter un certain nombre de gens de cette mouvance. Mais compte tenu de la, je dirais, de ce que moi j'ai senti du personnage de Burma, ça me semblait impossible de pas faire croiser son chemin avec celui des républicains, des anarchistes espagnols. Il me semblait vraiment là tout à fait prêt à se rencontrer. Voilà, il se trouve que j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Gaston Ferdière, qui a été notamment le psychiatre d'Artaud, qui était quelqu'un qui fréquentait la mouvance surréaliste et anarchiste, que Mallet a placé en référence dans un de ses romans, qui doit être le cinquième procédé, je crois, où des gens sont en exil, il y a un village qui s'appelle Ferdière. Donc tout ça fait un faisceau de rencontres et de recoupements, voilà, qui me fait dire que à gauche, pas à gauche, enfin oui, peut-être, mais... Voilà.
Enfin, de toute façon,
en dehors des clous.
L'époque est quand même il y a des, en tout cas, avant-guerre, et puis au début de la guerre, ça se sépare quand même assez vite. Fallait, qui est contre, qui est pour, il prend plus peut-être parti que dans les années 50, 60, où il a un petit côté chez Léo Mallet, moi je prends pas parti, enfin, je m'en fous, quoi.
Oui. Alors, bon, là, c'est difficile de séparer le personnage de son créateur.
Non, il est plus jeune, tout simplement.
Pardon ?
Il est plus jeune, tout simplement, donc.
Voilà.
Il n'est pas revenu de tout encore.
Voilà, il recite dans un de ses romans, qui doit être d'ailleurs Brouillard au Pontelbiac, il recite cette phrase de Clémenceau, si on n'est pas anarchiste à 20 ans, je ne sais plus si c'est 20 ans ou 15 ans. Enfin, bon.
20 ans.
20 ans, voilà. donc il cite la phrase entière, et justement dans l'adaptation de Tardy, Tardy fait dire à Nestor, oui, bon, Clémenceau a dit des conneries quand même, puisque après Clémenceau dit qu'on ne doit plus être anarchiste quand on est adulte. Quoi.
Ça, c'est Farroux qui dit ça, et ensuite voilà, Nestor réagit.
Il réagit. Donc, voilà, mon Nestor est peut-être un peu Tardy aussi. Hein. C'est possible quand Tardy fait promener son Nestor, qui est celui de Léo Mallet dans les rues de Paris au moment de la guerre d'Algérie, et qu'il y a un bombage. Enfin, aujourd'hui on dirait un tag ou un graphe
sur lequel
FLN vaincra. Il l'a placé à dessein et Mallet dit bon bah voilà, j'en ai pas voulu, il fait ce qu'il veut. C'est vrai que bon bah c'est la vie. Je me sens pas tenu de coller après les opinions de Léo Mallet. Je crois que c'est un personnage suffisamment riche, suffisamment chaleureux, suffisamment intéressant pour qu'on puisse être amoureux de lui et puis avoir son compte à soi.
Et avant toute chose, j'imagine, Patrick Pechereau, vous qui êtes né à Courbevoie, c'est que vous aimez Paris. Enfin, c'est-à-dire que alors évidemment, il y a des romans de Léo Mallet qui se situent en dehors de Paris, mais qu'on soit parisien ou non, de toute façon, quand même, ces déambulations variées comme ça, parfois très inutiles, parce que c'est une enquête, mais vraiment, on peut passer une rue, il saute dans un terrain vague qui n'existe plus depuis 50 ans, j'imagine. Il y a des fausses pistes tout le temps, et puis il regarde, voilà, en fait, c'est contemporain, mais il sent quand même très bien que ce Paris va disparaître tout le temps.
Oui, je crois qu'il a ce gros regret et je pense que c'était le gros chagrin, le gros désespoir parmi d'autres à la fin de sa vie. Hein, c'est que Paris, enfin son Paris est en train de mourir. Il n'aime pas le Paris qui lui succède et donc il gêne pas sur le Paris qui disparaît hein, dans ses romans, mais par contre il témoigne à sa façon de ce Paris, celui qu'il aime, celui dans lequel il a traîné ses chaussures percées quand il avait pas un sentiment poche, parce que Mallet, il a fait tous les métiers quand même hein. Il a fait tous les petits boulots. Alors on peut dire ce qu'on veut, il a quand même bouffé de la vache enragée comme assez peu d'auteurs aujourd'hui en mangent, je pense. Et ce Paris, ces déambulations, le place pour moi parmi les grands déambulants de Paris, comme Rétif de la Bretonne ou l'André Breton de Najda, ou des gens comme ça qui ont eu, ou Jean-Paul Kléber, qui ont eu ce Paris collé à la semelle de leurs chaussures. Et pour certains, c'était pas des chaussures de luxe.
Ou Fargue pour le, comme ou le piéton de Paris. Enfin. Voilà. Et justement, Patrick Péchereau, vous, parce qu'on sait que Léo Mallet n'a pas traité les 19e et 20e arrondissements, vous les traitez. Vous n'avez pas choisi de terminer les 20 arrondissements, les 5 manquants. Belleville-Barcelone, ça se passe vraiment à cheval le 19e, le 20e, et puis vous interdisez pas du tout d'aller dans le 13e arrondissement. Mais vous faites aussi au hasard, comme ça, d'une découverte. On est, alors je ne sais où, dans le 19e ou le 20e arrondissement, dans une rue, dans les années 30, mais ça existe encore. On passe une porte, sauf qu'aujourd'hui, il y a des codes et qu'on peut absolument pas entrer. Et puis un petit jardin, là, la maison d'Yvette, par exemple. Vous souvenez, c'est dans le Belleville-Barcelone. La maison d'Yvette nichait dans une allée bordée d'un potager grand comme un mouchoir de poche. L'endroit avait des allures de jardin ouvrier en miniature avec des poireaux qui pointaient leurs feuilles. Vous dites un coin de paradis comme il en pousse au fond des venelles et des passages biscornus à un jet de cailloux des fortifs. Ça sentait bon la terre et les pavés avec des bouffées de campagne qui s'échappaient des herbes folles. Ça, on est dans Paris en 1930 ou 38, je ne sais plus, en fonction du roman. Mais on est aussi dans ce qu'on aimerait découvrir comme ça au hasard de nos promenades aujourd'hui en 2016.
Voilà, c'est un Paris un peu de briques et de brocs. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours des coins de briques et de brocs, mais enfin, il faut vraiment les chercher parce que beaucoup ont été récupérés, fermés par des codes, effectivement, repris par une classe sociale qui n'était pas celle d'Yvette et de son petit potager ouvrier. Il y a une lente expulsion de toute une population ouvrière populaire de Paris intramuros vers des zones de plus en plus lointaines de la banlieue, c'est évident. Et aujourd'hui, il y a malheureusement une espèce de Paris. Moi, je suis pas nostalgique du tout, hein, parce qu'une ville, il faut qu'elle bouge. Il n'y a rien de plus triste que les villes musées. Mais voilà, sociologiquement, il y a quand même aussi un Paris qui aujourd'hui, là par contre, est mort. Hein. C'est le Paris de la classe ouvrière. Il y a encore effectivement des coins, des quartiers, voilà, un certain nombre d'arrondissements que visitait Burma Mallet sont aujourd'hui très gentrifiés, on va dire. Et ça sent moins. Je trouve que ça sent moins bon, quoi. Voilà. Il y a pas cette odeur de vie. Il y a des coins qui deviennent très vintage. Et qui recrée un Paris faussement populaire du passé, voilà, je veux dire.
Par exemple.
Par exemple, il n'y a qu'à se promener. Tiens, un coin où Léo Mallet allait déjeuner quand il vendait le journal vers le canal Saint-Martin. Il y a un petit resto qui s'appelle Chez Maurice, qui est rue des Vinaigriers. Aujourd'hui, c'est la boboisation du quartier. Je vois les casquettes Gavroche.
Est-ce qui est toujours surprenant quand on lit donc les nouveaux mystères de Paris donc des années 50 de Léo Mallet, c'est à quel point il y a quand même la classe ouvrière, les artisans dans chaque arrondissement, enfin, et en effet, ça n'existe plus. Enfin,
il y en a encore, là encore, il faut trouver. Puis il y a des nouveaux petits morceaux d'une société populaire, mais qui tournent plus autour de petites boîtes qui se montent, toutes ces PME invisibles, entre les coursiers, les gens qui bossent dans les start-up, les travailleurs à domicile, enfin les auxiliaires de vie, les choses comme ça. Tout ça fait partie d'une nouvelle classe populaire, mais elle est beaucoup plus éclatée. Elle répond pas aux mêmes critères, aux mêmes définitions que jadis, et il faut davantage les chercher. Et puis c'est souvent des gens qui n'habitent pas dans Paris ou qui habitent dans des quartiers périphériques de Paris.
Oui, c'est que dans le même quartier, dans le même immeuble, il y avait les gens riches, les gens pauvres, voilà. Et ça disparaît complètement. Vous dites, enfin, Nestor, non Burma, mais Nestor, dans un des romans, Patrick Péchereau dit, les quartiers de Paris ont leur odeur, ça c'est... La rue d'Aubervilliers, elle, respirait la mort. Alors ça, évidemment, c'est formidable, puisqu'il faut que ça respire la mort dans un roman policier, sinon... Alors évidemment, ça respire la mort parce que c'était...
Les pompes funèbres.
Les pompes funèbres.
Ouais. Et oui, ça c'est... je me suis imaginé ce grand entrepôt, enfin des pompes funèbres à l'époque où la mort n'était pas cachée à l'époque. Hein. Même moi, quand j'étais enfant, je me souviens des corbillards qui passaient, on cachait pas la mort. Donc il y avait tout un appareil, il y avait des tentures. Quand ma grand-mère est morte, quand j'étais gamin, il y avait une immense tenture sur l'immeuble avec la lettre, la première lettre de son nom. Enfin, la mort était présente. Donc imaginez les pompes funèbres gigantesques, rue d'Aubervilliers, avec tous ces corbillards qui passaient, dont la plupart étaient encore à cheval. Il y a quelque chose qui renvoie à une poésie noire.
Et ben maintenant, c'est un lieu culturel. Ça s'appelle le 104.
Oui, c'est bien qu'il ait survécu, mais c'est autre chose.
Il y a un roman de Pierre Véry qui se passe aussi dans cette rue, Monsieur Marcel des pompes funèbres.
Oui, il avait fait un personnage récurrent de son Monsieur Marcel, qui est très chouette.
Alors Patrick Péchereau, on l'a dit, vous êtes né à Courbevoie. Quelle est cette Léonie née à Courbevoie, qui est dans l'un des romans, je crois que c'est dans Belleville, Barcelone, ça se passe dans une soirée, c'est le fakir ou le faux fakir, bien entendu, et il y a un numéro comme ça de fausse télépathie, et on demande, la date de naissance de cette Léonie, parce que ça se fait pas, mais vous avez appelé ce personnage Léonie, elle n'apparaît même pas, mais je me suis dit, elle est née à Courbevoie,
oui,
on précise,
Comme une vraie Léonie qui s'appelait Batia et qui était bien sûr Arletty.
C'est ça. Donc c'est elle qui est censée être dans le roman.
Le prénom est arrivé là, bien sûr, ça n'est pas un hasard. Hein. J'avais écrit un roman jeunesse où j'avais mixé aussi le nom de le vrai patronyme d'Arletty avec un autre nom. Oui, c'est un autre amour. Il y a des gens chouettes à Courbevoie. Arletty, Jean Mécaire qui a
de Funès aussi.
Jean Mécaire qui a fait un passage à Orphelinat, Louis-Ferdinand Céline, bien sûr, Léoto y a vécu, donc Bartabas est un natif de Courbevoie, voilà, tout ça fait partie un peu de mon panthéon, donc j'aime bien placer des clins d'œil aux gens que j'aime, même si les gens que j'aime ont disparu ou s'ils ne liront jamais mes livres.
Et qui est le personnage le plus sympathique dans vos romans, dans ces romans-là de la saga des brouillards, donc cette trilogie parisienne, Patrick Péchereau?
C'est difficile. Moi, j'ai tellement vécu avec le costard de Nestor que je serais tenté de dire évidemment Nestor. Mais petit à petit, un personnage s'est émancipé, qui est celui d'Yvette, qui au départ était un peu le faire-valoir traditionnel.
La secrétaire Nunuche.
La secrétaire, voilà, qui prend une dimension et qui finit par river son clou à Nestor et qui prend vraiment une dimension, à tel point que dans le dernier, y a un des deux personnages qui a les premiers tracts de la résistance avant qu'elle ne s'appelle résistance, hein, qui donnait des conseils aux Parisiens occupés, un peu des conseils de désobéissance civile. C'est Yvette qui les trimballe dans son sac, c'est pas Nestor. Et lui, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous êtes folle. Et c'est elle, c'est Yvette. Donc ce personnage, si j'avais continué la série, probablement il aurait pris beaucoup d'épaisseur.
Alors, vous allez rester sur la trilogie. Il n'y a pas un quatrième.
Non.
Non. Je sais pas. Ness pourrait aller à Courbevoie, peut-être assister à des tas de choses.
Oui, non, mais ça y est, il a. Alors, il y a une nouvelle qui est sortie à l'occasion du salon du livre de Lyon il y a quelques années. On m'avait demandé d'expliquer pourquoi dans un de ses romans qui était 120 rue de la Gare, Nestor Burma dit qu'il est déjà passé à Lyon. Voilà. Il avait déjà filé la comète à Lyon. Et j'ai pas eu beaucoup de mal à imaginer, puisque Léo Mallet a travaillé à Lyon dans une usine, dans la banlieue de Lyon, dans une usine chimique, et il le raconte dans un de ses contes qu'il a appelé des contes doux, qui sont magnifiques, mais vraiment magnifiques, d'une noirceur absolue, qui n'ont rien à envier à la trilogie noire. Et donc j'avais fait une nouvelle qui plantait quelqu'un qui ressemblait un peu à un Nestor dans une usine chimique. Dans la banlieue lyonnaise.
Et on sait qu'à Lyon, évidemment, il y a passé du temps, Nestor Burma, puisque quand il arrive, il est libéré du stalag, il y passe quelques temps, et c'est là que commence finalement, recommence ou se poursuit l'aventure de 120 rue de la Gare. Patrick Péchereau, donc, on rappelle les titres de la saga des brouillards, donc Les brouillards de la Butte, Belleville, Barcelone et Boulevard des Branques, et tous les amoureux de Nestor Burma ne pourront que se précipiter sur ces trois romans publiés donc en folio policier. C'est bien pratique d'avoir en un seul volume les trois romans. Il faut dire aussi que vous avez parlé de la secrétaire, et là on peut le dire aux auditeurs qu'il couche avec sa secrétaire.
Oui,
c'est pas Hélène qui qui plus tard arrivera dans l'histoire Fiat Lux, dans l'agence Fiat Lux. Il y a une secrétaire, il y a le farci au pruneau aussi, ça c'est une spécialité Nestor. Et puis les coups de matraque, vous n'avez pas pu ne pas avoir...
Forcément, le coup de matraque, c'est le déclencheur du rêve surréaliste chez Burma. Je crois qu'il y a deux héros, les deux héros qui ont pris le plus de coups de matraque dans leur vie, ça doit être Tintin et Nestor Burma, je pense. Et il y avait derrière, tout de suite, il y a le privé à Babylone de Richard Brautigan, qui part lui aussi dans des rêves surréalistes.
Eh bien, merci Patrick Pechereau. Cette nuit spéciale Léo Mallet, cette deuxième nuit spéciale, se poursuit. On va entendre des nouvelles policières, puis Casse-pipe à la Nation... Les entretiens avec Léo Mallet, la fin de l'entretien avec Hubert Join. Et puis on retrouvera Guy Marchand, que l'on a entendu en tout début de nuit, un Nestor Burma, le Nestor Burma.